à bâton rompu. À bâton rompu, une émission proposée par Bruno Cyr.
Mesdames, Messieurs, bonjour. Robert Bégoin, bonjour.
Bonjour.
J'ai la chance et je dirais même le privilège de recevoir aujourd'hui une personnalité de la région, peu connue localement, mais nul n'est prophète en son pays, on sait bien ça, mais mondialement connue quand même, parce que Robert Bégoin est l'héritier d'une famille extrêmement célèbre dans le monde de la paléontologie, qui est une famille qui est conservatrice, mais le mot est peut-être pas le bon, qui est gardienne au sens plein du terme, de trois grottes paléolithique absolument fabuleuse dans l'Ariège, et ces trois grottes qui sont les grottes dites du Volpe, qui est le nom de la commune, je crois, Robert,
voilà.
Montesquieu, mais le Volpe, c'est la colline, je voulais dire, pas la commune.
C'est le ruisseau.
Donc les grottes du Volpe, il y en a trois qui sont, dont les entrées ne sont pas exactement à côté, mais distantes de 2 ou 3 kilomètres, mais qui de façon tout à fait extraordinaire, quasiment se rejoignent au milieu, au bout des grottes. Ce sont des grottes très, très grandes sous terre. Donc, ces trois grottes sont des grottes qui ont été habitées par les Magdaléniens il y a 20 000 ans. Enfin, Robert va nous raconter tout ça, Robert Bégoin. Ce qu'il y a d'absolument exceptionnel dans cette histoire, c'est que l'arrière-grand-père de Robert Bégoin, vous me corrigez si je me trompe, était paléontologue.
Voilà, Maximilien.
Maximilien Bégoin était paléontologue et ses enfants ont découvert sur la propriété familiale des grottes relevant de la paléontologie. Ça, c'était la probabilité égale à quasiment zéro. Et pourtant, ça a eu lieu et c'est en Ariège que ça a eu lieu. Et donc, la première des trois grottes s'appelle la grotte des trois frères, puisqu'ils étaient, il y avait le Maximilien Bégoin avait trois enfants qui ont découvert la première ensemble. Et puis, en cherchant, ils en ont découvert deux autres au fil des eaux. Et tout ça, il y a 110 ans. Exactement, puisque je crois que la première a été découverte en 1912.
Voilà, 1912,
donc en 2022, on était à 110 ans de la découverte de ces grottes. Ce qu'ont d'extraordinaire ces grottes, c'est qu'elles sont recouvertes, au moins deux d'entre elles plus particulièrement, mais M. Bégoin va nous expliquer tout ça, recouvertes de représentations extraordinaires. Et elles sont peu connues parce que la famille Bégoin a pris le parti de dire ce bien est un bien commun à l'humanité, il ne nous appartient pas en propre, même s'il est chez nous, donc nous devons le respecter et le transmettre. Et du coup, ils ne l'ont pas ouvert au public, ils ne l'ont ouvert qu'aux scientifiques. Donc ces grottes sont connues dans le monde scientifique, sont tout à fait inventorié, il y a eu des campagnes de fouilles, etc. Mais c'est vrai que le grand public n'y a accès qu'indirectement par des publications. Donc c'est la caractéristique de ces grottes qui sont dans un état de conservation comme au premier jour de leur découverte. Alors, je vous laisse compléter, M. Bégoin, parce que moi j'en ai trop peu dit, il y aurait beaucoup de choses à dire. Expliquez-nous un peu ce que sont ces grottes qui sont chez vous.
Alors, ces trois grottes s'appellent le Tuc d'Audoubert, la grotte des trois frères et la grotte dans l'Aisne. Donc, la première, le Tuc d'Audoubert, a été trouvée en 1912, la deuxième en 1914, mais finie d'explorer qu'en 1918-19, mon père et ses deux frères, les trois frères, étaient partis tous les trois au front, duquel ils sont ressortis vivants, blessés mais vivants, ce qui est d'ailleurs totalement extraordinaire. Alors, ce qui fait la particularité des grottes, comme M. Cyr vient de vous le dire, c'est que justement grâce à la culture de mon arrière-grand-père et de mon grand-père, qui s'était entouré déjà de savants très connus à Toulouse comme Émile Cartaillac, cette culture leur a permis de discerner justement cette fragilité extraordinaire qui est maintenant, que tout le monde reconnaît, bien entendu, dans
l'Europe. Avec les problèmes de Lascaux.
Mais à l'époque, c'était totalement unique, parce que tout de suite, on pensait au tourisme, ils ont été à guide, et l'attrait de l'argent aussi n'était pas pour rien dans tout ça. Donc ma famille a eu cette sagesse, et que nous continuons. Nous avons fait une association, ce qu'on appelle l'association Louis Bégoin, qui est aujourd'hui, sans but lucratif donc, qui est aujourd'hui propriétaire de toutes les 50 hectares sous lesquels passent les galeries, et tout ce qu'elles contiennent, les objets, etc., etc.
Alors la colline sur laquelle se trouvent ces trois grottes, qui sont, je le redis, distantes d'un point de vue entrée, les entrées ne sont pas juste à côté les unes des autres, mais il faut parfois faire plusieurs kilomètres.
Ah oui, là, non pas plus, avec un kilomètre, mais seulement elles se chevauchent, il y a des zigzags, enfin elles font beaucoup plus d'un kilomètre ensemble,
souterrain,
bien sûr.
Et, et la colline a été entièrement protégée par
l'État. La colline, depuis l'origine, on ne coupe même pas là les arbres, enfin vraiment c'est...
Voilà, c'est un site
chemin,
absolument
sentier,
préservé.
C'est absolument préservé, ce qui est maintenant la norme.
Ouais. Mais enfin, en 1912, ça ne l'était pas, ou en 1920 même.
Quand on pense à Lascaux, il y avait des autobus qui étaient sur la colline, vous voyez,
des
choses goudronnées, alors bien sûr.
Donc, bon, Lascaux est aujourd'hui fermé au public, on a fait des facsimilés, comme d'ailleurs à Chauvet, mais tout ça parce qu'on avait beaucoup dégradé, finalement.
C'est ça.
Alors que chez vous, tout est resté intact, il n'y a pas besoin de faire des facsimilés, on les a intacts. Mais comme vous êtes soucieux de faire connaître ce patrimoine de l'humanité, parce que là on peut vraiment parler d'un patrimoine de l'humanité qui nous renseigne beaucoup et on va y revenir évidemment, vous avez publié je crois sur chacune des
Voilà,
comptes.
Alors déjà mon arrière-grand-père dès 1912 publie beaucoup de choses, mon père continue et moi-même je me suis entouré bien entendu de savants comme Jean Clotte et d'autres, Andreas Pastor, etc.
Et de savants internationaux aussi.
De savants, tout à fait, voilà, internationaux, qui sont maintenant directeurs du CNRS ou des choses comme ça, mais ils ne l'étaient pas à l'époque, quand ils étaient étudiants. Ça m'a permis de mener à bien la publication de trois monographies, une par grotte, une monographie du Tuc de Doubert en 2009, la monographie de la grotte des Trois Frères en 2014, et en 2019, une dernière et grosse monographie de la grotte d'Enlaine, qui est la grotte Habitat, parce qu'Enlaine et les Trois Frères, ce sont des grottes sanctuaires, qui contiennent surtout les traces du passage et de la spiritualité des Magdaléniens. Ce sont des grottes profondes, et tandis qu'Enlaine est une grotte facile d'accès, longue de 300 mètres seulement, et c'était l'habitat des Magdaléniens.
Alors, où est-ce qu'on peut se procurer ces trois ouvrages? Parce que j'imagine que dans nos auditeurs, il y a des gens qui voudront en savoir plus.
Alors, les deux premiers sont épuisés, hélas, en librairie, mais La Grotte des Trois Frères est encore trouvable sur notre site internet cavernedivolpe.com.
Ouais,
et voilà, parce qu'on a encore 200 ou 300 exemplaires des Trois Frères. Et en revanche, La Grotte d'Enlaine est encore trouvable sur internet ou dans les bonnes librairies. Et chez nous aussi, dans notre
l'éditeur,
site internet. Il vaut mieux les acheter chez nous parce que ça nous aide. Parce qu'il faut dire qu'il faut beaucoup d'argent pour...
Faire ses recherches.
Pour faire ses recherches d'une part, mais ça je suis aidé par l'État quand même pour faire ses recherches, mais pour la publication j'ai été aussi aidé par l'État, mais il a fallu mettre beaucoup d'argent privé.
Il faut dire que j'ai eu la chance moi de voir ces ouvrages, ce sont des ouvrages d'art magnifiques.
Ah oui, ça on s'est fait plaisir, parce qu'on peut, ce sont des ouvrages avec cartonné, etc., du papier glacé, des photos, beaucoup de photographies, une iconographie très riche, et d'ailleurs la critique a été... très élogieuse, c'est pour ça.
Oui.
Parce qu'on rend vraiment service.
Non seulement vous rendez service, mais vous amenez aussi beaucoup d'éléments à la fois esthétiques et d'éléments qui nous interrogent sur la spiritualité.
Voilà.
Évidemment, on va y revenir, mais d'éléments esthétiques tout à fait. Alors, j'en prends quelques-uns au hasard, mais je voudrais que vous nous en parliez, qui sont parmi les plus connus. Le fameux grand sorcier. Qu'est-ce que le fameux grand sorcier ?
C'est une des figures les plus populaires de l'art préhistorique, parce qu'effectivement, c'est un être humain qui est mi-humain, mi-animal. N'est-ce pas ? Il a des jambes humaines, mais des bras avec des pattes de lion, un bec d'aigle, des cornes, des bois de renne, des yeux de hibou, enfin, des oreilles de loup.
Et c'est
il est
une
situé,
image tout à fait saisissante.
C'était totalement extraordinaire. Il avait un sexe aussi masculin très, très visible. Et il est situé à 4 mètres du sol, sur une immense théorie d'un millier de gravures, pour la plupart toutes animales, représentant des animaux et 200 ou 300 anthropomorphes. mais qui montre bien la spiritualité. C'était vraiment le dieu de l'endroit.
Ouais. Ça, c'est une... Et il est au fond.
Et il est au fond de la grotte, à plusieurs centaines de mètres de l'entrée, dans le noir absolu, parce que les hommes préhistoriques ont toujours été attrayés par les grottes en général.
Ouais.
C'est la matrice de la
Alors,
Terre.
Alors, on a du mal à imaginer qu'il se faufilait dans endroits absolument
impossibles. Par hasard, c'était pas tout le monde, c'était pas tous les chasseurs-cueilleurs qui allaient au fond des grottes. C'était les chamans, les sorciers, les chefs, parce qu'il fallait apprendre à dessiner. Il y a des conventions graphiques très strictes chez les Magdaléniens, mais chez les Aurignaciens aussi, dès le début. D'ailleurs, l'art date des Homo sapiens sapiens, c'est-à-dire à peu près une quarantaine de milliers d'années. Et ces sapiens sapiens inventent quelque chose d'extraordinaire qui va faire le tour de la Terre, qui est l'image. Et c'est par cette image symbolique qu'ils vont représenter leur monde. Et d'ailleurs, bon, nous n'en comprenons pas le pourquoi, on en analyse le comment.
Alors, il y a quelques invariants dans ces images aussi qui sont tout à fait extraordinaires. C'est que, par exemple, le sol n'est jamais représenté, les arbres ne sont jamais représentés.
Voilà, il y a des constantes.
Les hommes eux-mêmes ne sont quasiment jamais
représentés. Très peu, et en tout cas pas ressembleurs d'une manière. Oui. Ils sont caricaturaux.
Ils sont caricaturaux. Alors que les animaux sont de façon saisissante de vérité. On a l'impression qu'ils ont été dessinés hier.
D'ailleurs, l'art préhistorique tourne autour de quelques animaux, les grands herbivores, cheval, bison, renne. Et mammouths, etc.
Et vaches aussi, à Lascaux, il y a ces
oui,
vaches.
Oui, vaches, mais enfin, ça, c'est, oui. C'est des vaches des aurochs ou des bisons. Si
oui, des aurochs.
Voilà, voilà.
Des bisons, oui. Les aurochs.
C'est la même famille.
Oui, c'est la même famille.
Oui. Là, on parle de généralité.
De généralité, oui. Et l'autre chose particulièrement connue, mondialement connue, à part le grand sorcier, ce sont les fameux bisons d'argile. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot?
Les bisons d'argile, effectivement, ça a été une bombe. Quand on a trouvé ça, mon grand-père a télégraphié à Cartaillac, son ami qui était professeur de préhistoire à Toulouse. Les Magdaléniens modelaient aussi l'argile, amitié, Bégoin. Et Cartaillac a répondu par retour, j'arrive. Et nous avons la photo qui
c'était en quelle année
perpétue. Alors, c'était en octobre 1912.
Ah oui, c'était au départ, ils ont...
Ah
ils
oui,
ont
oui, dès le départ, trois jours après, Cartaillac est venu, bien sûr, et il a dit « c'est l'un des plus beaux jours de ma vie », bien entendu. Enfin,
oui.
ça a quand même été très...
Alors, décrivez-nous un peu ces bisons d'argile. Alors, où sont-ils?
Alors, les bisons d'argile sont situés totalement volontairement par les Magdaléniens dans la dernière salle de la grotte, à 650 mètres de l'entrée.
650 mètres
D'un parcours très difficile.
Oui.
Chatière, petit précipice, puits qu'il faut cheminer, qu'il faut grimper. Maintenant, on a un petit peu aménagé, mais pas beaucoup, parce que mon père voulait... Nous avons toujours tenu à ce que la gestuelle qu'il faut faire pour arriver jusqu'au bison soit presque la même que les Magdaléniens. Voilà, donc on a ajouté une échelle. Et donc, il recherchait le bout de ce qu'il pouvait faire.
Donc,
au bout de cette salle, ils ont prélevé de l'argile dans une salle attenante où l'argile était propre, où les ours n'avaient pas été. Ils ont prélevé des boules d'argile et ils ont modelé deux modelages de 63 à 64 cm chacun. C'est-à-dire, pas des petits objets quand même.
Non, non, c'est...
Et ils ont modelé ça et ils ont fait avec deux petits modelages aussi, deux autres à côté, des qui sont plus petits. Mais ces modelages, ces bisons ne sont pas blessés. La vulve de la femelle est au contraire très visible. L'image du mâle est très visible aussi.
Donc c'est un couple.
C'est un couple.
En train de s'accoupler.
Non, il n'est pas en train de s'accoupler, mais presque. Il est l'un au-dessus de l'autre. Mais donc c'est l'image de la reproduction, de la fécondité qui a voulu être représentée là. C'est pas la chasse.
Et donc ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'ils ont quoi, 18 000 ans?
Ils ont 17 000 ans.
17 000 ans.
Et on ne les a pas datés directement, eux, mais tout le contexte archéologique de la grotte a été daté par des quantités de datation. Et nous tournons autour de 17 000 ans. 15 000 avant Jésus-Christ, hein, pour être...
Oui. Donc, 17 000 ans et ils n'ont pas bougé.
Et ils n'ont pas bougé. Alors ça, c'est un véritable miracle naturel. Là, les Magdaléniens n'y sont pour rien. Mais parce que c'est vraiment le gros lot. C'est pour ça qu'ils sont uniques au monde. Les Magdaléniens, on en fait d'autres. Ça, nous en sommes certains.
Mais, oui, parce qu'ils sont extraordinaires de proportions,
voilà,
de présence.
À cet endroit-là, la nature du sol change. Entre la voûte de la salle et le sol à 30 mètres plus haut, il y a certainement plusieurs mètres d'argile compacte qui fait qu'à cet endroit-là, il n'y a aucune goutte d'eau qui n'est tombée depuis 17 000 ans.
Ah oui.
Et alors, c'est le fond de la grotte. Il n'y a plus de courant d'air. C'est les conditions idéales de conservation. Et donc, les échanges thermiques sont extraordinaires. C'est-à-dire que le sol est à la même température que l'air. Donc, ça n'a pas bougé. Voilà, et nous nous sommes imposés, depuis l'origine, à n'y aller que deux ou trois fois par an à deux ou trois personnes.
Ah oui.
Depuis l'origine. Oui, il n'y a pas 1000 personnes qui ont vu les bisons d'argile. Mais c'est parce que nous, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est parce qu'on considère que ça ne nous appartient pas.
Et effectivement, on se dit, s'il y avait une goutte d'eau qui était tombée ne serait-ce que tous les 10 ans, tout aurait fondu.
Ah mais absolument, il ne resterait rien. Il y a d'ailleurs des petits tas par-ci par-là dans la grotte, on se demande si ça n'a pas été une sculpture autrefois. Parce que...
Alors est-ce que dans ces lieux, les gens, c'était des lieux de prière, les gens venaient souvent
ou... Oui, les grottes se prêtent à ça. Il y a le silence, il y a le noir absolu, il y a la beauté aussi des stalactites et des stalagmites. Ça peut être une chatière, mais ça peut être un endroit où on peut mettre une maison dedans. Donc, et puis ce silence absolu est quand même quelque chose... qui facilite l'approche des esprits, en quelque sorte, si on les cherche.
Ouais.
Et donc, depuis toujours, et dans toute la Terre, les grottes ont été utilisées et dès l'origine. Bon, il y a 35 000 ans, à la grotte Chauvet, eh bien, ils ont tout de suite... Ce qui est extraordinaire, c'est que l'art a tout de suite été parfait. On a cru pendant très longtemps que l'art avait eu une progression entre le simple carré jusqu'à l'œuvre... figurative, tout à fait finie. Mais il n'en est rien. Avec la découverte de la grotte Chauvet, il y a eu des fulgurances artistiques, humaines, oui, alors, totalement incroyables.
Revenons justement à ce côté spiritualité des premiers hommes. Moi, j'y vois, au fond, un signe inexplicable sans l'intervention divine, qui est que, tout d'un coup, les hommes se mettent à intégrer le temps dans leurs approches de l'univers qui les entoure, c'est-à-dire s'intéressent à leur histoire et s'intéressent à leur avenir, à leur futur, et donc commencent à enterrer leur mort, commencent à représenter des choses qui sont évidemment des choses qu'ils ont vues de leur passé, pour leur donner une espèce de permanence, donc cet axe du temps. On est les seuls êtres vivants dans la création qui ont cette approche du temps. Et quand j'entends dire, moi, les hommes sont des animaux comme les autres...
Ah ben non,
ça pour moi, ne serait-ce que ça, le fait que nous ayons intégré l'axe du temps et que ça remonte à 40 000 ans et peut-être plus, comment l'expliquer sans l'intervention divine ?
Certes, ils se sentaient faibles par rapport à la force des animaux qu'ils voyaient tout autour, mais quand même, ils savaient qu'ils allaient les vaincre, qu'ils allaient les tuer quand même. Il faut beaucoup d'adresse.
Et puis, ils avaient cette... Alors, et la deuxième chose, c'est le côté spiritualité.
Alors, il y avait la mort aussi. Ils fréquentaient la mort tous les jours, parce que la mortalité infantile était effroyable. L'âge moyen était de 27 ans environ, disent les spécialistes. Et donc, la mort était au quotidien, vraiment. Donc ça devait les interpeller.
Oui, et puis le danger était permanent.
Et oui, et puis la moindre maladie, dans des conditions de vie effroyables. Mais ce qui est merveilleux, c'est que malgré ces conditions de vie effroyables, ils trouvaient le temps de créer de la beauté. Moi, ça m'a toujours... J'ai toujours alors, été ému devant cette beauté.
C'est la deuxième chose, effectivement, moi, qui me bouleverse et où je vois une approche qui va contre... l'idée de la relativité. Aujourd'hui, on est dans un monde qui est dominé par tout est relatif. Or, s'il y a une chose qui n'est pas relative, c'est l'art. C'est-à-dire que l'art est permanent. Et dès le début, on voit, c'est ce que vous venez de dire, on voit que ce sont les mêmes ressorts, les mêmes canons de l'esthétique et de l'art qui sont présents.
C'est ça.
Dans les bisons d'argile, dans le grand sorcier et dans toutes les gravures, les peintures que vous avez. Mais on pourrait dire la même chose à Chauvet, qui est encore plus vieux. On pourrait dire la même chose à Lascaux, qui date à peu près de la même époque. Mais enfin, quand je dis à peu près, c'est à quelques milliers d'années près. Mais on voit cette permanence de l'art qui est la même chose et qui nous émeut toujours autant aujourd'hui.
Alors ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que non seulement cet art s'applique sur les peintures et les gravures sur les parois, mais également dans les objets du quotidien. Dans le dernier livre sur Enlaine que nous avons publié, j'ai mis en valeur cette vérité.
Oui, parce qu'Enlaine était la grotte habitée.
L'habitat, alors oui. on a des quantités de... Il y a des armes, des outils, de la parure. Bon, la parure, on peut comprendre qu'elle soit ornée. Mais par exemple, le manche d'un propulseur, qui est une arme de jet, ça n'ajoute rien à son efficacité si le manche est orné d'un beau bison ou d'un beau saumon.
Oui,
vous voyez, c'est, oui ça, si, vous,
dépasse
si vous ornez
l'utilité,
le manche d'un tournevis ou d'un marteau, ça ne va rien ajouter à son efficacité. Eh bien, justement, ils étaient très, très émus et il fallait absolument qu'ils ornent le moindre de leurs objets. Et ça, c'est quand même extraordinaire.
Mais surtout avec une finesse.
Avec une délicatesse, une volonté. Mais ça, on le retrouve dans l'art pariétal aussi. Aux Trois Frères, vous avez des gravures d'une finesse et d'une délicatesse inouïe. Et ils connaissaient la paroi. Il y a aussi cet aspect. Ils devaient aller très souvent visiter la grotte. Ils connaissaient chaque paroi avec ses petits secrets, son petit fossile qui dépasse, dont ils faisaient un œil d'un bison de temps en temps ou la patte d'un autre animal. Vous voyez.
Et alors, mais pourtant, ils s'éclairaient avec quoi? Avec de lampes à huile.
Voilà, tout ça, ils avaient 10 dixièmes, on ne peut pas avoir plus. Ils avaient une très bonne vue probablement parce qu'ils étaient jeunes. Et ils avaient des lampes de suif, des lampes à graisse.
Vous en avez retrouvé, non ?
On a retrouvé beaucoup de lampes, oui.
Qui étaient construites, qui n'étaient pas l'utilisation de...
Non, c'était des pierres creuses.
Des pierres creuses,
Des pierres plates, un peu creuses, dans lesquelles ils mettaient du suif, et qu'il fallait allumer avec une mèche de genévrier, parce que la mèche, il ne faut pas qu'elle brûle. donc le genévrier a cette propriété.
Donc il y avait déjà tout un savoir-faire sur la maîtrise du feu.
Et ils y allaient à plusieurs, parce qu'ils allaient à deux ou trois, parce que si la mèche s'éteint, rallumer dans une grotte qui était à 100% humide, c'était pas évident du tout. Nous supposons qu'ils y allaient au minimum à deux.
Et donc là, avec ces lumières tremblantes, dans une relative obscurité quand même, hein, c'est pas...
La lumière tremblante devait être une source de vie. Quand on avait des lampes acétylènes autrefois, c'est très joli. On voit l'animal qui bouge un petit peu avec les ombres portées.
Et donc là, ils inventoriaient la paroi en quelque sorte.
Ils investissaient la paroi. Dans les moindres recoins, aux Trois Frères, il y a des parois où il y a des centaines de dessins. Il n'y a pas un petit endroit où il n'y a rien. Alors ça veut dire quelque chose, que ça devait être important pour communiquer justement avec les esprits dont ils attendaient des retours probablement.
Alors, revenons à cette question de la spiritualité chez les premiers hommes. Est-ce que il y a une continuité, c'est une question qu'on peut se poser, avec ensuite notre propre spiritualité de l'ère judéo-chrétienne, à votre avis?
C'est très difficile, mais il y a notre commune humanité déjà. Nous sommes des homo sapiens sapiens, absolument identiques aux magdaléniens.
Ouais.
Je mets votre squelette dans les couches d'Enlaine. Et il faudra que ça soit une datation pour savoir que c'est un tibia de Monsieur Bruno Cyr. Donc ça déjà, on a une commune humanité, donc les mêmes choses produisent les mêmes effets. On peut, parce qu'il faut toujours se méfier de ne pas transcrire notre spiritualité sur la leur.
Oui.
Vous voyez, je raconte souvent l'histoire de la Vierge Marie. Je ne sais pas si j'ai
non.
le temps.
Oui, allez-y.
Mais
on va le prendre.
Imaginez qu'il y a eu un chaos de la Terre, il n'y a plus rien sur la Terre, et que des milliers et des milliers d'années plus tard, des Martiens ou des hommes venus d'un autre monde, d'une autre planète, arrivent sur cette Terre, font des fouilles et trouvent une statue de la Vierge Marie. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, ah, c'est une femme très belle, qui avait un fichu bleu, une robe longue, une couronne sur la tête. Mais on ne pourra rien dire de tout ce qu'elle a représenté pour des milliards de catholiques pendant 2000 ans.
C'est un peu ça. Donc il faut faire attention.
Mais ils avaient une spiritualité
on
très
voit
riche,
les ça, signes ils de leur spiritualité, mais on ne sait pas quelle était.
Quelquefois, je suis tenté de dire qu'ils avaient une spiritualité heureuse. Parce que des gens qui créent de la beauté comme ça, ils n'ont pas faim. D'abord, ils n'avaient pas faim, puisque un troupeau de rennes, c'est 10 000 rennes.
Ah oui.
Encore aujourd'hui, il y a dans le Grand Nord canadien...
Il faut dire qu'on était dans une période glaciaire.
Ici, en Ariège et partout en France, il y avait des rennes à profusion. Et donc, je crois qu'ils ont eu le temps de, de penser à eux-mêmes, de penser à leur, aux esprits, de penser à leurs conditions humaines.
Et de créer des œuvres d'art intemporelles. Oui. C'est d'ailleurs la meilleure définition de l'art. C'est quand une œuvre...
Ça donne une très grande espérance dans notre condition.
Je trouve que ça donne une très grande espérance. Eh bien, écoutez, M. Bégoin, merci pour ces témoignages. Malheureusement, notre temps est écoulé. J'invite nos auditeurs qui sont passionnés ou qui seraient passionnés par l'histoire de cette famille Bégoin et par les grottes du Volp qui méritent vraiment qu'on s'y intéresse. Croyez-moi, j'ai eu la chance de pouvoir y accéder un petit peu et c'est vraiment quelque chose qui est absolument saisissant. Donc il y a heureusement ces trois monographies. Je crois que ce sont les seuls.
Et puis notre site internet aussi.
Et votre site internet.
cavernesduvolp.com.
Voilà, qui permet de...
En anglais, en allemand et en français. Et nous avons beaucoup de soins. Puis il y a pas mal de publications de mon arrière-grand-père, de mon grand-père.
Et de vous-même.
De mon père, et voilà.
Voilà, qui vous permettront, chers auditeurs, d'approfondir, de continuer cet échange. Robert Bégoin, merci beaucoup.
Merci, M. Sire.